Chapitre 3. Les deux premières années se passèrent ainsi. Mes frères et mes sœurs continuaient à mendier. Moi, je me donnais 1000 peines pour rendre service aux parrains. À 10 ans, l'idée d'apprendre un état et de gagner mon pain me travaillait déjà. Maître Jean le voyait et me retenait le plus souvent possible à la forge. Chaque fois que j'y pense, je crois entendre la voix du parrain me crier. « Courage, Michel, courage !» C'était un grand et gros homme, avec de larges favoris roux, la grosse queue pendant sur le dos et les moustaches si longues et touffues qu'il pouvait les passer jusque derrière ses oreilles. Dans ce temps, les maréchaux ferrants des hussards avaient aussi ses favoris et la queue nouée derrière en forme de perruque. Je pense que le parrain voulait leur ressembler. Il avait de gros yeux gris, le nez charnu, les joues rondes, et riait fort lorsqu'il s'y mettait. Son tablier de cuir lui remontait en bavette jusque sous le menton et ses gros bras étaient nus à la forge en plein hiver. À chaque instant, il disputait avec Valentin, son compagnon, un grand gaillard, maigre et voûté, qui trouvait tout bien dans ce bas monde, les nobles, les moines, les maîtrises, tout. « Mais cet animal !» lui criait le parrain. « Si ces choses n'existaient pas, tu serais maître forgeron comme moi depuis longtemps. Tu te serais acquis du bien, tu pourrais vivre à ton aise. »« C'est égal, » répondait Valentin. « Vous penserez ce qui vous plaira. Moi, je suis, pour notre sainte religion, la noblesse et le roi. C'est l'ordre établi par Dieu. » Alors maître Jean levait brusquement ses épaules et disait « Allons, puisque tu trouves tout bien, moi j'y consens. En route !» Et l'on se remettait à forger. Je n'ai jamais rencontré de plus brave homme que Valentin, mais il avait la tête en pain de sucre et résonnait comme une oie. Ce n'était pas sa faute. On ne pouvait pas lui en vouloir. La mère Catherine pensait comme son mari, et Nicole pensait comme la mère Catherine. Tout prospérait à l'auberge. Maître Jean gagnait des sommes tous les ans, et quand on nommait les répartiteurs pour les corvées, les tailles et les autres impositions des baraques, il était toujours sur la liste avec le maître bûcheron Cochard et le grand charron Létumier, qui se faisait bien aussi 300 ou 400 livres. Il faut savoir qu'alors, le chemin ordinaire des rouliers, des voituriers et des maraîchers d'Alsace pour se rendre au marché de la ville passait par les baraques. Comme la route de Saverne à Falsbourg montait tout droit, comme elle était effondrée, pleine d'ornières et même de ravines, où l'on risquait de verser jusque dans la Schlittenbach, comme il fallait des 5 et 6 chevaux de renfort pour grimper cette côte, les gens aimaient mieux faire un détour par le vallon de la Zorne. Et presque tous, en allant et venant, s'arrêtaient à l'auberge des Trois Pigeons. La forge et l'auberge allaient bien ensemble. Pendant qu'on ferrait le cheval, ou qu'on raccommodait la charrette, le voiturier entrait aux Trois Pigeons. Il voyait de la fenêtre ce qui se passait dehors en cassant sa croûte de pain et vidant sa chopine de vin blanc. Les jours de foire, la grande salle fourmillait de monde. Ces gens arrivaient par bandes avec leurs hottes, leurs paniers et leurs charrettes. En s'en retournant, ils avaient presque toujours un verre de trop dans la tête et ne se gênaient pas de dire ce qu'ils pensaient. C'était des plaintes qui ne finissaient pas. Les femmes, surtout, n'en disaient jamais assez. Elles appelaient les seigneurs, les prévôts, par leur véritable nom. Elles racontaient leurs abominations et quand leurs maris voulaient un peu les calmer, elles les traitaient de bêtes. Les marchands d'Alsace en voulaient surtout au péage, qui leur enlevait tout le bénéfice, car il fallait payer pour entrer d'Alsace en Lorraine. Les pauvres juifs, qu'on rançonnait à toutes les barrières, tant pour le juif et tant pour l'âne, n'osaient pas se plaindre, mais les autres ne ménageaient personne. Seulement, après avoir bien crié, tantôt l'un, tantôt l'autre se levait en disant « Oui, c'est vrai, on nous étrangle, les droits augmentent tous les jours, mais que voulez-vous? Les paysans sont des paysans et les seigneurs des seigneurs. Tant que le monde marchera, les seigneurs seront en haut et nous en bas. Allons, à la grâce de Dieu. Tenez, mère Catherine, payez-nous. Voilà votre compte. En route !» Et toute la bande partait. Une vieille se mettait à prier tout haut pour aider à la marche. Les femmes répondaient et les hommes, la tête penchée, rêvaient derrière. J'ai souvent pensé depuis que cette espèce de bourdonnement par demande et par réponse leur évitait la peine de réfléchir et que cela les soulageait. L'idée de céder eux-mêmes, de se débarrasser du saunier, du collecteur, du péager, des seigneurs, des couvents, de tout ce qui les gênait, et de mettre les dîmes, les aides, les vingtièmes, toutes les impositions dans leur propre poche, comme ils l'ont fait plus tard, cette idée ne leur venait pas encore. Ils se reposaient sur le bon Dieu. Enfin, tout ce mouvement, ces plaintes, ces fourmillements de juifs, de rouliers, de paysans dans la grande salle, les jours de foire, leurs disputes sur le prix du bétail, du blé, des avoines, des récoltes de toutes sortes, leur mine lorsqu'ils se tapaient dans la main et qu'ils faisaient apporter le pot de vin pour arroser le marché, selon la coutume, tout cela m'apprenait à connaître les hommes et les choses. On ne pouvait pas souhaiter meilleure école pour un enfant. Et si j'ai gagné du bien par la suite, c'est que je savais le prix des grains, des bêtes et des terres depuis longtemps. Le vieux juif Schmoul et le grand Matthias Fischer du Harberg me l'avaient appris, car ils disputaient assez souvent ensemble sur la valeur des denrées, Dieu merci. Moi, tout petit, en courant chercher les gobelets et les cruches, j'ouvrais de grands yeux et je dressais les oreilles. On peut me croire. Mais ce que j'aimais encore beaucoup mieux que tout le reste, c'était d'entendre Maître Jean lire la gazette après souper. Aujourd'hui, la moindre auberge de village a sa gazette. L'ancien messager boiteux de Silbermann, pendu derrière la croisée, ne compte plus. Chacun veut connaître les affaires du pays et lire son courrier du barin ou son impartial de la Meurthe, deux ou trois fois au moins par semaine. Chacun serait honteux de vivre comme un âne sans s'inquiéter de ceux qui regardent tout le monde. Mais avant 89, les gens qui n'avaient pas se mêler de rien et qui n'étaient bons qu'à supporter les impositions autant qu'il plaisait au roi de leur en mettre sur le dos, les gens n'aimaient pas à lire. La plupart ne connaissaient pas même la première lettre. Et puis les gazettes étaient très chères. Et Maître Jean, quoique à son aise, n'aurait pas voulu, pour son plaisir, faire une aussi grosse dépense. Heureusement, le petit colporteur Chauvel nous en apportait un paquet chaque fois qu'il rentrait de ses tournées en Alsace, en Lorraine ou dans le Palatinat. Voilà bien encore une de ces figures comme on n'en voit plus depuis la Révolution. Le colporteur d'almanach, de bons paroissiens, de salutations à la Vierge, de catéchisme, de croisettes, etc. Celui qui roulait de Strasbourg à Metz, de Trèves à Nancy, Pont à Mousson, Toul, Verdun, qu'on rencontrait dans tous les sentiers, au fond des bois, devant les fermes, les couvents, les abbayes, à l'entrée des villages, avec sa carmagnole de bure, ses guêtres à boutons d'os, montant jusqu'aux genoux, de gros souliers chargés de clous luisants, les reins pliés, la bretelle de cuir en travers de l'épaule et l'immense panier d'osier sur le dos, comme une montagne. Il vendait des livres de messe. Mais combien de livres défendus passaient en contrebande? Des Jean-Jacques, des Voltaire, des Rénal, des Helvétius. Le père Chauvel était le plus fin, le plus hardi de tous ces contrebandiers d'Alsace et de Lorraine. C'était un petit homme brun, sec, nerveux, les lèvres serrées et le nez crochu. Son panier avait l'air de l'écraser, mais il le portait bien tout de même. En passant, ses petits yeux noirs vous entraient jusqu'au fond de l'âme. Il savait, d'un coup d'œil, ce que vous étiez, si vous vouliez quelque chose, si vous apparteniez à la maréchaussée, s'il devait vous craindre ou vous offrir un de ses livres. Il le fallait, car d'être pris en faisant cette contrebande-là, c'était un cas de galère. Toutes les fois qu'il arrivait de ses voyages, Chauvel entrait d'abord chez nous. À la nuit, quand l'auberge était vide et que tout se taisait au village. Alors il venait avec sa petite Marguerite qui ne la quittait jamais, même en route. Et rien que d'entendre leurs pas dans l'allée, on disait « Voici Chauvel, nous allons apprendre du nouveau. » Nicole courait ouvrir et Chauvel entrait, son enfant à la main, en faisant un petit signe de tête. Ce souvenir me rajeunit de 75 ans. Je le vois avec Marguerite, brune comme une myrtille, la petite robe de toile bleue en franges, le long des jambes, ses cheveux noirs tombant sur les épaules. Chauvel donnait le paquet de gazettes à Nicole. Il s'asseyait derrière le poêle, sa petite entre les genoux, et Maître Jean se retournait tout joyeux en criant. « Eh bien, Chauvel, eh bien, ça va toujours ? Ça marche ?»« Oui, Maître Jean, ça va bien. On achète beaucoup de livres. Les gens s'instruisent. Ça va, répondait le petit homme. » Marguerite, quand il parlait, le regardait d'un air d'attention extraordinaire. On voyait qu'elle comprenait tout. C'étaient des calvinistes, de vrais calvinistes de La Rochelle, qu'on avait chassés de là-bas, ensuite de Lixheim, et qui, depuis 10 à 12 ans, vivaient aux baraques. Ils ne pouvaient remplir aucune place. Leur vieille cassine était presque toujours fermée. En revenant, ils l'ouvraient et restaient 5 ou 6 jours à se reposer. Ensuite, ils repartaient faire leur commerce. On les regardait comme des hérétiques, des sauvages. Mais cela n'empêchait pas le père Chauvel d'en savoir plus, à lui seul, que tous les capucins du pays. Maître Jean aimait ce petit homme. Ils s'entendaient entre eux. Après avoir ouvert le paquet de gazettes sur la table et regardé quelques minutes en disant « Celle-ci vient d'Utrecht, celle-ci de Clèves, celle-ci d'Amsterdam, ah, nous allons voir, nous allons voir. C'est bon, c'est fameux. Nicole, cherche mes besicles, là, sur la fenêtre. » Après s'être ainsi réjoui quelques instants, Maître Jean se mettait à lire. Et moi, je ne respirais plus dans mon coin. J'oubliais tout, même le danger de retourner à notre baraque trop tard en hiver, lorsque la neige couvrait le village et que des bandes de loups avaient passé le Rhin sur la glace. J'aurais dû partir tout de suite après souper. Mon père m'attendait, mais la curiosité d'apprendre des nouvelles du grand Turc, de l'Amérique et de tous les pays du monde me possédait. Je restais jusque passé 10 heures. Et même encore aujourd'hui, je crois être dans mon coin, à gauche de la vieille horloge, l'armoire de noyer et la porte du cabinet où couchait Maître Jean à droite, et la grande table d'auberge en face de moi, contre les petites fenêtres sombres. Maître Jean lit. La mère Catherine, une petite femme, les joues rosées, les oreilles couvertes d'un bavolet blanc, file en écoutant, et Nicole aussi, son bonnet en coussiné sur la nuque. Cette pauvre Nicole était rousse comme une carotte avec des taches de son par milliers et les cils blancs. Oui, tout est là. Les rouées bourdonnent. La vieille horloge marche. De temps en temps, elle grince, les poids descendent, l'heure sonne, et puis le tic-tac continue. Maître Jean dans son fauteuil, ses besicles à branches de fer sur le nez, comme moi maintenant, les oreilles rouges et ses gros favoris ébouriffés, ne fait attention qu'à sa gazette. Quelquefois, il se retourne pour regarder sous ses lunettes et dit « Ha ha, voici des nouvelles d'Amérique. Le général Washington a battu les Anglais. Voyez-vous ça, Chauvel ?»« Oui, Maître Jean. » répond le colporteur. « Ces Américains, il n'y a pas plus de 3 ou 4 ans, ont commencé leur révolte. Ils ne voulaient plus payer la masse de droits que les Anglais augmentaient de jour en jour, comme ça se pratique souvent ailleurs. Et maintenant, leurs affaires vont bien. » Il souriait une seconde sans desserrer les lèvres, et Maître Jean se remettait à lire. D'autres fois, il était question de Frédéric II, ce vieux renard prussien qui voulait recommencer ses tours. « Vieux gueux !» bégayait Maître Jean. « Sans Monsieur de Soubise, il ne ferait pas le gros dos. C'est cette grande bête qui nous a valu Rosbach. » « Oui, » répondait Chauvel, « et voilà pourquoi Sa Majesté lui a donné 1 500 000 livres de pension. » Alors, il se regardait en silence, et Maître Jean répétait. « 1 500 000 livres à cet imbécile. » Et on ne trouve pas 1 liard pour refaire la route royale de Saverne à Falsbourg. Il faut que des milliers de paysans se détournent d'une lieue pour aller d'Alsace en Lorraine. Le pain, le vin, la viande, tout renchérit. « Eh, que voulez-vous ? Ça, c'est de la politique !» disait le calviniste. « Nous ne comprenons rien à la politique, nous autres. Nous ne savons que travailler et payer. La dépense regarde le roi. » Lorsque Maître Jean s'emportait trop, la mère Catherine se levait bien vite. Elle écoutait dans l'allée et tout s'apaisait, car le parrain comprenait ce que cela voulait dire. Il fallait de la prudence. Les espions rôdaient partout. S'ils avaient entendu ce que nous pensions des princes, des seigneurs et des moines, nous en aurions vu de grises. Chauvel et sa petite fille partaient d'assez bonne heure. Moi, j'attendais toujours jusqu'à la dernière minute, lorsque Maître Jean repliait sa gazette. Alors seulement, il me voyait et criait. « Hé, Michel, qu'est-ce que tu fais donc là? Tu comprends donc quelque chose ?» Et sans attendre ma réponse, « Allons, » disait-il. « Demain, au petit jour, nous aurons de l'ouvrage. Ce sera jour de marché. La forge chauffera de bonne heure. En route, Michel, en route !» Je me rappelais aussitôt que les loups descendaient au village, et je courais allumer un flambeau dans la cuisine. La petite fenêtre sur la cour avec ses barreaux était noire comme de l'encre. On entendait la bise pleurer dehors. Je me dépêchais en frissonnant, et Nicole m'ouvrait. À peine dehors, dans la nuit, on voyait cette grande rue blanche monter avec ses ornières entre les vieilles cassines enterrées sous la neige. En écoutant le vent souffler et quelquefois les loups s'appeler et se répondre dans la plaine, je me mettais à courir, mais à courir tellement que j'en perdais la respiration. Les cheveux me dressaient sur la tête. Je sautais par-dessus les tas de neige et de fumier comme un cabri. Les vieux toits de chaume, les lucarnes, au-dessous, avec leurs bouchons de paille où pendait le givre, les petites portes barricadées de traverse, tout était terrible sous la lumière blanche de mon flambeau qui filait comme une étoile dans le silence. Tout semblait mort, mais en courant, je voyais tout de même au fond des ruelles, à droite et à gauche, quelques ombres aller et venir. Et cette vue me donnait une telle épouvante qu'en arrivant à notre baraque, je me jetais contre la porte comme un perdu. Le pauvre père était là, près de l'âtre, dans son vieux pantalon de toile tout rapiécé, et s'écriait. « Oh, mon enfant, que tu viens tard! Tous les autres dorment! Tu as donc encore écouté lire la gazette ?»« Oui, mon père, tenez. » Je lui mettais dans la main le morceau de pain que Maître Jean me donnait toujours après souper. Il le prenait et me disait « Eh bien, couche-toi, mon enfant, mais ne rentre pas si tard. Tant de loups courent le pays !» Je me couchais à côté de mes frères, dans la grande caisse remplie de feuilles, une vieille couverture toute déchirée par-dessus. Les autres dormaient, à force d'avoir couru mendier dans les villages et sur les grandes routes. Moi, je veillais encore longtemps, écoutant passer les coups de vent et quelquefois, au loin, un bruit sourd au milieu du grand silence. Les loups attaquaient une étable. Ils sautaient à 8 et 10 pieds contre les lucarnes et retombaient dans la neige. Puis tout à coup, 2 ou 3 cris terribles s'entendaient. Toute la bande descendait la rue comme le vent. Ils avaient pris un chien et couraient le dévorer sous les roches. D'autres fois, je frissonnais de les entendre souffler et gratter sous notre porte. Le père alors se levait. Il allumait une torche de paille sur l'âtre et ses bêtes affamées s'en allaient plus loin. J'ai toujours cru que ces hivers en ce temps étaient plus longs que de nos jours et bien plus rigoureux. La neige montait souvent à 2 et 3 pieds. Elle tenait jusqu'en avril à cause des grandes forêts qu'on a défrichées depuis et des étangs sans nombre que les couvents et les seigneurs laissaient en eau dans les vallées pour n'avoir pas besoin de les planter et de récolter tous les ans. C'était plus commode. Mais ces grandes masses d'eau, ces bois et ces marais entretenaient l'humidité dans le pays et refroidissaient l'air. Maintenant que tout est partagé, labouré, ensemencé, le soleil entre partout et le printemps fleurit plus vite. C'est ce que je pense. Mais que ce soit pour cette raison ou pour une autre, tous les anciens vous diront que les froids arrivaient plus tôt, qu'ils finissaient plus tard et que tous les ans, des bandes de loups attaquaient les écuries et venaient enlever les chiens de garde jusque dans la cour des fermes.